On a un petit souci technique, je crois qu'il y a des cheveux qui sont coincés dans un casque. Mayday, mayday, des cheveux coincés dans un casque. Non, ça va ?
Moi, la dernière fois, ça fait la même chose.
Et devinez qui s'est fait avoir par le poisson d'avril du technicien Marie. Bonjour et bienvenue dans cette émission L'Agité du local. Et oui, je me suis vraiment bien fait avoir. Pourtant, j'étais prévenue un 1er avril aujourd'hui. Mais non, ça a bien fonctionné à 100%. En attendant, ça ne change rien, hein, pas de cheveux coincés dans le casque, mais toujours en compagnie de Claire et d'Emma aujourd'hui. Bonjour les filles.
Bonjour tout le monde.
Salut tout le monde, moi aussi je me suis fait avoir du coup. Merci Joël à la technique.
La technique en l'occurrence, vraiment je me suis fait bien avoir. Vous l'avez compris, 1er avril, vous aussi méfiez-vous hein, peut-être de vos collègues qui vont faire des petites farces comme ça, même si ça reste évidemment bon enfant et que là je n'ai pas marché dedans, j'ai couru en tout cas dans cette blague. Évidemment, en tout cas, ça ne va pas empêcher la tenue de cette émission puisqu'aujourd'hui on va parler de Laval qui n'a pas obtenu le label capitale de la culture, évidemment. Et puis aussi un reportage que tu as réalisé, Claire, justement, avec l'équipe de Clean Up.
Oui, exactement. On est parti ramasser les déchets et parler avec eux du projet qu'ils ont fait. Ils sont tout jeunes, ils sont en première année d'études, donc voilà, très intéressant.
Et donc on va les suivre lors de cette marche. Et puis Emma, justement, tu vas nous parler de ces espèces animales qui, elles, soufflent un peu pendant le confinement.
Oui, exactement. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé pendant le premier confinement et tout ce qu'on a pu observer pendant cette période.
Très bien. Donc, on te retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, on va faire un petit point sur l'actualité. Retour d'un confinement partout en France. Vous le savez, les mesures appliquées à 19 départements jusqu'ici sont généralisées à l'ensemble du territoire à partir de samedi soir et pour 4 semaines, annoncé hier du président de la République Emmanuel Macron. Certains commerces vont devoir fermer leurs portes et une attestation sera nécessaire pour tout déplacement à plus de 10 km de chez vous. Mais surtout, les écoles vont fermer pour 3 semaines dès demain soir, avec une semaine de cours à la maison et 2 semaines de vacances pour tous à partir du 12 avril. Reprise des cours en présentiel pour les écoliers le 26 mars et pour les collégiens et lycéens le 3 mai.
À Laval, une cellule de crise réunie ce midi par la municipalité.
Objectif justement, détailler les dispositions concernant les écoles, les crèches, les accueils de loisirs et les différents services publics de la ville de Laval. La municipalité rappelle que plus de 10 500 injections ont été administrées au centre de vaccination de Laval à la salle polyvalente. Sa capacité pourrait augmenter les prochains jours pour massifier la vaccination.
En Mayenne, les dépistages continuent ce jeudi à Goron.
Évidemment aussi un peu partout en Mayenne, mais là c'est exceptionnel. Juste aujourd'hui, un centre de dépistage mobile présent sur le parking face à la salle de sport à Goron toute la journée jusqu'à 18h. Vous pouvez vous munir de votre carte d'identité, de votre carte vitale et c'est tout, puisque c'est gratuit, sans rendez-vous ni ordonnance. Le résultat est connu en 20 minutes puisque ce sont des tests antigéniques.
Un camping-car termine dans la rivière.
L'accident a eu lieu vers 21h hier soir, quai de la République à Mayenne. Le camping-car est tombé dans l'eau, sans qu'on ne connaisse les raisons de cette chute. Des plongeurs sont intervenus en milieu de soirée et les deux occupants du camping-car ont été transportés au centre hospitalier du Nord-Mayenne.
Le spectacle de Jean-Luc Lemoyne reportait un bon champ.
Initialement prévu le 16 avril prochain, le spectacle de l'humoriste aura finalement lieu le jeudi 31 mars 2022 à 20h30. Les billets déjà achetés restent valables pour la date de report, mais sont aussi remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés jusqu'à fin 2021.
De nouvelles aides pour devenir animateur auprès des jeunes.
En Mayenne, la CAF octroie de nouvelles aides à celles et ceux qui veulent passer leur BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Désormais, les aides ne seront plus conditionnées au quotient familial. 400 € seront attribués pour la session de formation générale et 200 € pour la session d'approfondissement. Une aide versée directement à l'organisme de formation pour éviter l'avance de frais par la famille.
Le stade Lavallois a un nouveau président.
Laurent Léry est officiellement à la tête du club après l'assemblée générale d'hier soir. Le mode de gouvernance du stade Lavallois passe d'un conseil de surveillance et un directoire à un conseil d'administration avec les mêmes membres. Objectif du nouveau président, remonter en Ligue 2, rénover ou construire un nouveau stade en restant au stade Francis Levasseur et créer une équipe féminine professionnelle de haut niveau.
plongeon du haut des gradins et brasse sur chaise pour les élèves à Saint-Berthevin.
Un drôle de mot a été signé par 3 instituteurs de l'école du lac à Saint-Berthevin, où ils expliquent qu'ils doivent faire passer ce jeudi 1er avril des tests de natation à certaines classes, pas à la piscine fermée, mais dans les salles du COSEC à Saint-Berthevin, avec plongeon du haut des gradins, brasse sur chaise et planche étoile de mer au sol au programme. Évidemment, c'était un poisson d'avril. À vous de déterminer si celui de Joël, notre technicien, ou celui des enseignants était le meilleur, évidemment.
Et Laval ne sera pas capitale française de la culture 2022.
On le sait depuis mardi après-midi, c'est Villeurbanne qui a obtenu ce label décerné par l'État pour 2 ans. Laval qui faisait partie des 9 villes finalistes présélectionnées sur dossier. À la clé, il y avait 1 million d'euros et une reconnaissance nationale. Mais pour Bruno Fléchard, adjoint aux cultures pour tous à la ville de Laval, ça n'empêchera pas les projets prévus de se mettre en place.
Le label, on l'a déjà gagné en fait. Ça a été une aventure assez forte entre tous les acteurs culturels, les services qui se sont beaucoup mobilisés sur le projet, des rencontres du coup. Je crois qu'il y a eu un réel plaisir à construire un projet ensemble. Et puis, bon, c'est vrai que je ne peux cacher une certaine déception sur la décision qui a été prise aujourd'hui. Mais on saura rebondir assez rapidement là-dessus parce qu'on sait qu'on a une matière précieuse qu'on connaissait déjà un petit peu. C'est l'esprit de coopération entre les acteurs. Là, on a pu la tester grandeur nature et on sait qu'il en restera quelque chose. La relance culturelle, évidemment, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Donc, on sera attentif à tout ce qui peut booster la créativité et puis les projets sur le territoire. Maintenant, la contrainte est évidemment, quand on a 1 million de moins sur un projet qui en pesait 10 millions, c'est pas rien, c'est 10% en moins. Donc on aura des choses à redimensionner. Alors je prends souvent l'exemple des Fabulobus, qui était le projet de créer 5 bus avec à l'intérieur des caissons immersifs qui permettent de s'immerger dans un univers en 3D, sans lunettes du coup. Plutôt que de faire 5, on en fera peut-être 2, 1. C'est ça qui reste à mesurer, savoir comment on va redimensionner aux moyens dont on dispose, mais en gardant le même esprit. Et je crois que ce qui est important, c'est de garder ça, cet esprit de dynamisme, d'innovation, d'envie de faire des choses. Et ça, c'est le plus précieux. Et ça, on ne le perdra pas. Les résidences d'artistes, pour moi, c'est un outil extrêmement précieux qui sont ce qu'on appelle la présence artistique sur le territoire. C'est souvent l'occasion d'aller vers des quartiers qui n'ont pas souvent l'habitude de recevoir la visite d'artistes. On a quelques exemples déjà avec les architectes qui étaient sur la place de RC, sur le quartier du pavement avec aussi une autrice. On sait qu'on a déjà des perches tendues du côté de la piscine, ça nous tente bien parce que là c'est un lieu de rencontre assez improbable où les gens viennent pour nager et puis vont découvrir une œuvre ou participer même à une œuvre. On a une entreprise aussi qui se montrait intéressée pour accueillir des artistes, donc tout ça c'est pas finalisé, mais on sait qu'on va garder évidemment l'envie d'accueillir des artistes en résidence, et là encore c'est une histoire de proportion, plutôt que d'en faire 12, mais on en fera peut-être 10, 8, le plus possible, en tout cas en fonction des moyens dont on dispose.
On en saura un peu plus dans les prochaines semaines sur ce programme culturel pour 2022. Une chose est certaine, l'ouverture du tiers-lieu culturel l'année prochaine avec de multiples activités artistiques proposées. Chaque jeudi, ils ramassent les déchets dans les rues de Laval. Ils, ce sont les étudiants de l'école d'ingénieurs ESIA que Claire a rejoint pour une marche.
Et oui, et ces jeunes avaient comme directif de réaliser une après-midi par semaine un projet porté sur le social ou l'environnement. Certains donnent des cours dans des maisons de quartier par exemple. Ici, ces jeunes, c'est l'équipe Clean Up qui ont choisi de ramasser des déchets. On écoute d'abord Alex, celui qui a eu l'idée.
Je vais faire un projet autour de l'écologie. Le but, c'était pas juste ramasser pour ramasser. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les personnes, de montrer la fragilité de notre environnement. Un parking de 200 places, on y est resté 3 séances pour juste faire tout le tour du parking. Et on a dû y ramasser presque entre 50 et 100 kilos de déchets en 3 semaines. Des dépôts sauvages un petit peu aussi, des gros déchets tels que des parasols. C'est aberrant, mais justement c'est pour ça qu'on fait ça, pour essayer de changer les mentalités. Pour moi c'est pas normal, peut-être parce que aussi j'ai grandi comme ça, on m'a toujours dit de ne jamais jeter les déchets, mais il y en a certains qui n'ont pas été éduqués comme ça, et justement faut leur montrer que ce qu'ils font, ça a un impact très néfaste sur leur environnement. Par exemple, juste que les personnes, elles réflexent, quand on marche à côté d'un déchet et qu'on voit qu'il y a une poubelle vraiment juste à côté, le prendre et le mettre dans la poubelle. Si tout le monde faisait ça déjà, ce serait déjà un grand pas. On a croisé des agents d'entretien de la ville et qui nous disent qu'ils sont débordés, ils n'ont clairement pas le temps de s'occuper de tout ça. On trouve ça important, c'est une cause qui nous tient à cœur.
Clara Bourdon, j'aime bien prendre soin un petit peu de l'environnement. Ce projet me semblait pas mal parce que c'est quelque chose qui est quand même super important. Moi je viens de la campagne. Et en fait, en ville, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de déchets, par exemple. Du coup, c'est bien de ramasser et de voir qu'on peut être utile. Mon père, il est agriculteur et dans les champs, il y a souvent plein de déchets. Donc lui-même, il a l'habitude de le faire. Du coup, il est content de voir qu'il y en a, il y a des jeunes qui reprennent tout ça et qui font ce genre de choses.
Moi, c'est Lefebvre Lorenzo. Au début, moi, je voulais faire soigneur animalier, donc ou zoologiste. Donc, je voulais vraiment être près de la nature, tout ça. Au final, je me suis plutôt orienté vers une voie ingénieur. Quand Alex a proposé le projet, tout de suite, j'ai fait, c'est ça que je veux faire en fait. Surtout que l'environnement, c'est très très important. On le met de plus en plus en avant et c'est normal parce qu'on a souvent trop négligé dans le passé. Donc aujourd'hui, on commence à réaliser notre impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est une vraie prise de conscience, je trouve. De plus en plus chez les jeunes, on en parle de plus en plus et c'est ce qu'il faut.
Adrien Schneider, de base, c'est vraiment une cause que j'aime beaucoup. J'avais déjà travaillé dans une entreprise de recyclage aussi et tout. Donc ça me plaît beaucoup en plus de sortir comme ça de temps en temps. C'est quelque chose que je faisais plus trop en tant qu'étudiant. Et le fait de pouvoir faire ça dans les études, c'est super cool, ça permet de mélanger l'utile et l'agréable, donc c'est vraiment un super moment de venir là le plus souvent qu'on peut. On se rend compte que véritablement le ramassage, c'est pas une fin en soi, on voit que de toute façon, on a bien vu quand on ramassait au niveau du quartier Ferrier, en 2 semaines, il y avait, je crois c'était 1,5 kg de déchets qui étaient revenus sur une zone qu'on avait déjà ramassée. Donc on sait que c'est pas très utile de ce point de vue là, mais au moins il y a des gens qui voient qu'il y a... ça préoccupe quand même. Il y a des gens à Laval Aglo qui nous disent de leur rapporter ce qu'on fait en envoyant des photos et tout pour qu'ils puissent retransmettre à la mairie en disant cet endroit c'est sensible, là il faut ramasser des déchets. Parce qu'on se rend compte que nettoyer à notre échelle, on peut pas faire quelque chose de significatif. Il y a des endroits qui sont vraiment très graves. Mais ce qui est déjà bien, c'est que on rencontre des gens et ils se rendent compte que ça nous touche, même en tant que jeunes. Hein, on est encore des jeunes, mais ça nous intéresse quand même.
Je suis Loïc Billon, du coup je suis un des 6 membres du groupe. Et on se sent toujours utile parce qu'effectivement, quand on ramasse des déchets, les gens qui vont passer là, ils vont se dire « Oh, il y a moins de déchets aujourd'hui ». Enfin, c'est toujours plus agréable que quand vous marchez sur du plastique en pleine herbe. On a eu pas mal de gens qui nous encourageaient, qui nous remerciaient. On a aussi des gens qui faisaient la même chose. On a croisé un monsieur assez âgé qui, justement, tous les matins faisait le bord de Mayenne et ramassait les déchets qu'il voyait. Là, on est dans le quartier Hillard et du coup, on avait déjà fait le quartier Ferrier qui est juste à côté. Et là, on va essayer de faire toute la zone pour... pour nettoyer un petit peu. C'est moins pollué que prévu, mais c'est quand même pas mal. Si on continue pendant 2 heures, là, on peut facilement atteindre les 20 kilos. En venant ici, la dernière fois, il y avait une jambe de voiture. Des meubles, des capots de moto, des sièges de voiture, des panneaux de signalisation, enfin un peu de tout. Des matelas, des lits.
Finalement, le groupe a ramassé 13 kilos de déchets, ce qui reste évidemment énorme pour une marche de 2 heures et pour une parcelle de verdure située entre des immeubles. Les jeunes sont vêtus d'un gilet jaune avec le logo de leur école, ESIA, E-S-I-E-A. N'hésitez pas à les saluer.
Oui, puisque donc, vu que nous sommes jeudi, vous risquez peut-être de les croiser, en tout cas cet après-midi, donc n'hésitez pas à les saluer. Pourquoi pas leur donner un petit coup de main ? On sait jamais. Si jamais certains veulent les aider. Alors, en tout cas... On va pas forcément aller les aider cet après-midi, mais en tout cas, d'ici quelques minutes, on va parler du festival du premier roman à Laval, qui se tient cette année malgré des conditions sanitaires, on le sait, qui sont compliquées. Cette année, il y aura donc bien un festival, mais un festival en ligne. On vous donne tous les détails d'ici quelques minutes, juste après avoir écouté Water Fountain de Tune Hard.
Cherry pie, he gave me $1. works in the store. Greasy men come and dig my well. Life without your water is a burning hell. Stuff me up with your home.
Toujours l'agité du local et on parle de ce festival du premier roman à Laval qui commence ce samedi, un festival annulé en 2020 mais qui revient pour une 29e édition adaptée cette année. Tout se fera non plus sous chapiteau en centre-ville de Laval comme d'habitude mais en ligne pendant 2 jours ce week-end et malgré ce changement la programmation reste très riche comme l'explique Céline Benabès, responsable de Lecture en Tête, l'association qui organise le festival.
Alors on l'a transformé assez vite, sachant qu'on ne voulait pas au départ annuler physiquement les rencontres. Donc on a attendu d'avoir vraiment une interdiction préfectorale pour réfléchir à, et pratiquer un nouveau format. Donc réussir à ce que tous les plateaux programmés sur 3 jours, parce qu'au départ le festival c'était du 1er au 5 avril avec le lundi de Pâques inclus, comment des plateaux sur 3 jours pouvaient se concentrer sur 2. Où allions-nous inviter les auteurs, parce qu'on voulait quand même une présence physique des auteurs, parce que c'est quand même plus chouette que d'avoir 2 visages sur son écran ou 3 visages sur son écran. Au niveau technique, c'est quand même plus agréable pour le public qui est derrière son écran. Et donc on n'est pas les premiers, donc on avait quand même d'autres expériences qu'on pouvait aller voir, on pouvait s'en inspirer. Donc on a cherché et on a mis 3 semaines et demie, en gros, à organiser ce festival sous format en ligne. Il y a une cinquantaine d'invités qui seront présents au Théâtre de Laval. Pour nous, c'était important qu'ils puissent même eux se croiser, parce qu'on ne peut pas vraiment les garder très longtemps ensemble, mais se croiser. Pour certains, il y aura aussi des rencontres publiques, pour ce qu'on appelle les publics qui ont accès à des rencontres, c'est le public scolaire et les publics spécifiques. C'est-à-dire toutes les personnes encadrées, accompagnées par des structures sociales en particulier. Donc nous, on voulait aussi qu'ils soient là pour avoir ces rencontres-là, qui étaient prévues dès le départ et qu'elles puissent exister, puisqu'on avait un accord préfectoral pour le faire. Et puis pour un format type format télévisuel, de 10h à 19h sur 2 jours, une présence physique des invités sur une scène comme le Théâtre de Laval, même si on aura 2 rencontres en simultané, qui sont enregistrées dans le théâtre, une sur la grande scène qui s'appelle La Passerelle pour nous et une à la rotonde qui s'appelle Le Square. Ça permet, je pense, d'avoir une image plus belle, plus agréable quand on est spectateur ou téléspectateur.
On ne peut pas, en tant que spectateur, se déplacer au théâtre, forcément. Il y a quand même un programme bien fourni, bien rempli. Vous avez souhaité aussi maintenir au maximum ce qui était prévu.
Oui, pour être honnête, il y a une rencontre qui a été annulée parce que, ou du moins reportée. Cette autrice, qui est Annick Valakniewicz, c'est la prochaine auteure en résidence en Mayenne. Et elle venait principalement rencontrer le bibliothécaire, ce qui n'est pas possible. Donc on s'est dit, voilà, tu reviens en octobre, comme ça, à cette époque-là, on espère qu'on pourra faire des choses un petit peu plus agréables et vivantes. Donc c'est la seule rencontre qui n'a pas été programmée en ligne. Par contre, tout le reste est programmé. C'est pour ça que c'est très dense, très intense. On a maintenu aussi le temps, la durée d'un plateau, qui va de 45 minutes à 1h15. Voilà, il faudra sans doute pour chacun être patient, être comme si on était sur une chaise sous chapiteau, parce que le festival avait lieu sous chapiteau. et passer un peu de temps, oui, devant l'écran, mais pour écouter la littérature s'exprimer, écouter les auteurs s'exprimer, écouter du dialogue s'exprimer, et j'espère beaucoup de pensées et d'idées.
L'idée, c'est qu'il y ait des tables rondes, on va dire, plus classiques, mais aussi des lectures, une lecture musicale, je crois avoir vu.
Il y a une lecture samedi midi. Edith Azam est poétesse et nous l'avions passée commande l'année dernière pour une lecture avec la femme comme mesure. Elle sera accompagnée cette fois-ci par une violoncelliste, ce qui n'était pas le cas en 2020. Et oui, ça donnera une note peut-être plus festive et plus douce peut-être pour se poser lors du déjeuner et écouter simplement des mots et de la musique. Je ne sais pas si c'est l'ADN du festival qui fait ça, mais depuis quelques années, on constate qu'on a de plus en plus de jeunes autrices dans la sélection, avec une vraie équité entre le nombre d'auteurs hommes et d'auteurs femmes, sans qu'on ait fait un choix, hein, on n'a pas cherché à avoir une parité. Mais en tout cas, on le constate. Je pense que les femmes actuellement se permettent plus de choses, et donc aussi peut-être d'envoyer plus facilement des manuscrits, et donc d'être plus facilement éditées. Donc on le note, on l'observe, donc on a envie de le transmettre. Mais c'est pas... Alors évidemment, c'est un engagement. On est déjà deux femmes ici à travailler. Donc quand on peut valoriser aussi les femmes dans ces univers qui sont quand même principalement masculins, eh bien on le fait. Je pense que voilà, il faut le faire, donc on le fait.
Justement, au Festival du premier roman, on est à chaque fois sur des découvertes, en tout cas de pépites que vous souhaitez mettre en avant.
Ce festival du premier roman existe depuis 1992, donc c'est vraiment sur ce projet-là qu'il s'est construit. Il n'y avait rien à y changer, je pense que c'était très intelligent dès le départ, et c'est très instructif sur comment bouge le monde. Il faut savoir qu'un jeune romancier ne se lance pas dans l'écriture ni dans la publication sans avoir un énorme bagage littéraire. Donc ce sont des auteurs qui ont déjà, enfin qui baignent dans la littérature depuis très longtemps. Après, l'acte d'écrire et l'acte d'être publié leur vient peut-être plus tardivement, parce que ça n'est pas facile d'être publié quand on est jeune romancier, qu'on n'a pas de réseau, etc., etc. Et on découvre beaucoup de talents. Ce festival, il s'est aussi transformé en 2014 en y introduisant ce qu'on appelle « et la littérature contemporaine », aussi pour faire venir des auteurs plus confirmés, mais pas simplement. C'était aussi petit à petit faire découvrir d'autres formes d'écriture, dont la poésie, la BD, qui est aussi dorénavant un peu plus présente au festival. Et donc élargir, tout en favorisant quand même la présence de ces jeunes romanciers qui seront au nombre de 30 cette année.
Festival du premier roman, là votre marraine, je crois, est elle-même passée par le festival il y a quelques années. Donc j'imagine que c'est aussi une satisfaction pour vous de voir un peu l'évolution et ce que deviennent justement les écrivains et écrivaines qui passent par ce festival.
Le projet de Lecture en tête s'est construit là-dessus. On accueille environ 16 primo-romanciers tous les ans. Mais on suit leur production, on suit leur carrière. Si bien que Carole Martinez, elle était venue pour son premier roman. Elle est même revenue nous parler de son troisième, il me semble, La Terre qui penche. Elle revient régulièrement. Donc là, on lui a demandé, parce qu'elle vient de publier Les Roses Fauves, d'être la marraine de ce festival. Parce qu'elle aime aussi accompagner les jeunes romanciers. Elle sait ce que c'est d'être un tout jeune romancier, de absolument pas connaître ce milieu et d'y faire sa place. Et oui, nous, on est toujours ravis de voir comment ces jeunes pousses, comme certains les appellent, deviennent des auteurs de renom avec une vraie matière littéraire qui se construit, qui s'élabore et qui est identifiable. Ça, c'est très important.
Qu'est-ce qui vous permet justement de faire votre choix, puisque un premier roman, bon, y en a qui ont bien sûr ensuite une belle carrière, mais aussi certains où ce sera leur seul et unique roman et qui après partiront sur autre chose.
La sélection de Lecture en tête est faite par les lecteurs. Nous, professionnellement, on intervient vraiment à la toute fin. Donc, nous ne sommes pas à l'origine de cette sélection, quand nous l'annonçons. Ce sont des lecteurs. Et je crois qu'on n'a pas de paramètres extérieurs tous les ans. Ce sont des coups de cœur, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. On a évidemment une exigence, c'est aussi ce qu'on dit à nos lecteurs, et qu'ils soient exigeants sur la qualité littéraire, c'est très important. Après, la question de l'histoire, ça peut être une question beaucoup plus personnelle. Il y a une histoire qui nous intéresse ou qui ne nous intéresse pas. Donc, on ne part pas nécessairement de l'histoire, mais de la qualité littéraire. Et oui, il y a certains auteurs qui sont passés par Laval, qui n'ont écrit qu'un roman, mais ça n'empêche pas leur qualité littéraire. Après, la vie, voilà, peut offrir d'autres opportunités que de poursuivre une écriture. Voilà, ce sont des destins tous particuliers, tous différents. Sans savoir si on mise ou pas sur le bon cheval, je pense que ce sont des vrais choix sensibles, et ça le plus important. Depuis le départ, il n'y a pas eu le choix de valoriser un seul primo-romancier, c'était vraiment justement d'en valoriser, alors ça n'a pas été 16 au départ, je crois que c'était 9, et petit à petit, on a agrandi le nombre de primo-romanciers invités. Donc c'était pas, voilà, il ne faut pas valoriser un seul, valoriser les 16. Et quand les 16 sont choisis, ils ont automatiquement ce qu'on appelle un plateau littéraire classique, un café littéraire pour parler de leurs livres. Mais aussi on les propose au public scolaire, on les propose au public spécifique. On organise depuis quelques années ce qu'on appelle les gourmandises littéraires, qui s'originent dans un parrainage. Donc on propose à des lecteurs de bibliothèques, on a quand même plus d'une quarantaine de bibliothèques partenaires sur le département. Donc elles peuvent toutes choisir un de ses premiers romans, et ce qu'on appelle parrainer le jeune auteur, c'est-à-dire réunir un petit groupe de lecteurs, discuter du bouquin, et ensuite rencontrer l'auteur en rencontre privilégiée à Laval pendant le festival. C'est ça le parrainage, qui ne pourront pas avoir lieu cette année, ou en très très petit nombre, quand ce sont des publics bien précis, déjà visés par les bibliothèques, etc., au nombre de 6 maximum. Et ça permet aussi à ces jeunes auteurs d'avoir un public lecteur en direct, parce que c'est souvent ce qu'ils se disent, que voilà, ça n'est pas les premiers romans, sauf ceux qui vont sortir sur les listes des prix, etc., ou très valorisés médiatiquement, vont rencontrer un public très vite, des dédicaces en librairie ou même des rencontres. Il y en a d'autres, et nous on cherche aussi des pépites qui ne sont pas remarquées ailleurs, d'ailleurs, ont besoin de rencontrer leurs lecteurs. Et ça permet vraiment d'être en contact direct avec son lectorat, et un jeune romancier l'apprécie toujours. Donc on essaye d'avoir des rencontres à différents niveaux. Alors évidemment, quand le festival a lieu, on va dire normalement, c'est beaucoup plus facile et ça se passe très bien. Là, on a beaucoup réduit les choses, malheureusement. Mais voilà, c'est toujours le schéma d'origine. On le touchera pas. Quand on pourra recommencer des rencontres normales, physiquement, on reprendra ce schéma-là.
Mais j'ai cru voir quand même qu'il y avait un prix du deuxième roman, c'est ça ?
L'association a réfléchi à comment continuer à accompagner, soutenir l'émergence de la jeune littérature contemporaine. Depuis très longtemps, l'histoire d'un prix du deuxième roman traînait dans les réseaux littéraires. Il n'avait jamais été mis en place. Et il y en avait un avant Lecture en tête, qui est en Belgique. Donc c'est la littérature francophone. Et donc Lecture en tête a créé en 2012 la première édition, mais ça a été pensé en 2011. Un prix littéraire du deuxième roman, qui a sa 10e édition cette année. Et c'est très important, il semblerait, pour un jeune romancier qui a eu du succès pour son premier, parfois d'avoir une gamelle sur le deuxième, parce que la pression éditoriale, la pression de l'organisation du monde du livre, etc., leur impose d'aller très vite pour le deuxième, parce qu'il ne faut pas les oublier. On leur dit, il ne faut pas vous faire oublier le premier, etc. Donc, et souvent, soit c'est un manuscrit qui était écrit avant, etc. Et donc, ça peut être une gamelle, ou alors un romancier que nous, on avait... Parce que ce sont des auteurs qui sont passés par Laval, dont on sélectionne les deuxièmes romans pour les prix. Ça peut être un premier roman qui n'est pas nécessairement perçu par le milieu journalistique médiatique, mais qui aura été remarqué par les lecteurs. Et le deuxième peut enclencher encore autre chose, parce qu'un prix, c'est une reconnaissance par un jury professionnel amateur, puisque le prix est présidé par Sor Chalandon, et dans le membre du jury, on a panaché entre des lecteurs et des auteurs. Donc là, il y a la touche supplémentaire, on va dire, de ses pairs qui vont regarder le travail d'un jeune romancier. Et voilà, on l'entend très souvent dans la bouche des jeunes romanciers que le deuxième roman est très difficile à écrire parce qu'on a peur. Et il faut savoir une chose, et dans le journalisme littéraire, il y a une éthique qui fait qu'on ne critique jamais négativement un premier roman. Donc si on n'en parle pas, c'est parce qu'on n'a pas envie d'en parler, mais on ne va pas le critiquer négativement. En revanche, si l'auteur se permet un deuxième et que là, on a envie de le critiquer négativement, ce sera fait. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui peut être très douloureux, et nous, on avait envie de porter, à l'inverse, et soutenir. Et donc, même si voilà, on a un lauréat tous les ans, mais on a 5 finalistes, et on sait que les 5 finalistes sont aussi très heureux. Voilà, savoir que parce que là, c'est le premier jury d'un jury de lecteurs. Savoir que leur deuxième roman, il y a quelque chose. Après, tout le monde ne peut pas avoir le prix, et ce n'est pas très, très grave. Mais voilà, c'est une valorisation aussi, un accompagnement de la jeune littérature émergente.
Le fait que le festival puisse avoir lieu en ligne, comment est-ce que vous le vivez, du coup, de votre côté ? Puisqu'il y a quand même beaucoup de rendez-vous, mais il n'y aura pas cette rencontre, comme vous le disiez, avec le public. Comment est-ce que vous vivez ça ?
Je pense que pour l'association Lecture en tête, c'est très important de montrer qu'on est là pour poursuivre le travail associatif par tous les moyens, alors pas n'importe lesquels, hein, mais en les choisissant bien. Mais il faut, on peut pas lâcher les gens, ni les auteurs, ni le public. On n'est pas autorisé à permettre les rencontres physiques, mais on se doit de leur donner accès à quelque chose qui puisse nourrir, qui puisse garder un lien, puisque ça fait quand même plus d'un an maintenant qu'on ne peut pas organiser des rencontres tout public, et des cafés littéraires, etc. Et on perd le lien avec le lecteur, c'est, voilà, il faut le savoir, c'est, ça marche quand même comme ça. Donc l'association se doit d'être réactive, de garder du lien, de montrer qu'on est là, parce que c'est une association, donc c'est de l'argent public, ce sont des subventions publiques. Donc on doit rendre aussi ce qu'on nous donne, on doit le rendre d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous c'est satisfaisant comme ça. Après si je voulais exprimer quelque chose de personnel, je le dirais qu'égoïstement je trouve ça super de vivre quelque chose, parce que quelque part moi je vais le vivre depuis le début de l'organisation, mais je vais aussi pouvoir croiser, parce que je ne vais pas beaucoup les rencontrer non plus, mais croiser les auteurs. Je vais pouvoir observer que voilà, eux sont heureux d'être là, etc., etc. Mais j'ai une terrible insatisfaction et même je suis une forme de colère. D'être dans une forme d'entre-soi parce qu'on ne peut pas donner accès physiquement au public ce qui se vit là, ce qui est d'habitude le cas, puisque le festival du premier roman et de la littérature contemporaine est très facile dans le sens où on a vraiment accès, les gens sont mélangés sous chapiteau, voilà, on a accès aux auteurs, accès aux modérateurs, accès aux libraires, entre lecteurs, aux organisateurs, aux bénévoles, vraiment on est vraiment tous ensemble, à nos partenaires qui sont là aussi. Et là, on ne peut pas le faire. Donc, voilà, j'ai une forme de, quand même, voilà, d'une grande insatisfaction. Et je ne peux pas me satisfaire de ça dans l'absolu. Et, mais l'association se doit d'agir, d'être présente. Mais je reste quand même très dubitative sur l'impact, même pour un lecteur lambda, de ce format-là. Après, voilà, ça existe, ça sera une trace. Voilà, ça fait partie des archives de la vie associative. C'est une trace. Je pense que les auteurs sont aussi contents de pouvoir parler, s'exprimer, partager. Les gens peuvent acheter les livres. On défend les librairies indépendantes sur le site. Voilà. Mais c'est, voilà, c'est, pour moi, ça n'est qu'un passage. Et il faudra qu'on fasse mieux. Il faudra que ça aille mieux l'année prochaine pour la 30e édition.
Et avant d'arriver à 2022, si vous voulez participer aux conférences et rendez-vous proposés ce week-end, il vous suffit de vous rendre sur le site festivalpremierroman2021.fr avec deux salles de conférences en simultané, le Square et la Passerelle, où vous pourrez, si vous le souhaitez, envoyer vos questions aux auteurs et autrices via le chat. On revient pour la chronique d'Emma d'ici quelques minutes, mais avant on écoute « Dans ma cité » de Clay & Friends.
Dans ma cité, y'a des malades, fument du verre pour chasser leurs blues. Dans ma cité, y'a des sorcières, car à elles et à leur vaudou.
Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say. Les murs tatoués sur les rues qui délimitent habilement la destinée de ceux qui les habitent. Mes rêves sur la corde à linge, partis au vent. Ma carte de crédit deviendra tapis volant. C'est pas la fuite qui compte, mais l'atterrissage. Mon frigo vide qui réveille le voisinage. L'été s'étire, salon s'allume, une cigarette sur papier. Je tisse l'art avant de disparaître. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say. Dans ce jeu de société, aux règles de fou, Jean-Leloup crie à un jour, à quoi je joue. Les bouches dégoûtantes à ceux qui speak tard. Les blacks qui speak white, les blancs qui speak noir. L'accent fait à la main, sort des lèvres du rappeur. La mort de l'ego, des rap vite sur la peur. Les pauvres blâment les riches, traitent de pickpocket. Tous les doigts se pointent en forme de pistolet. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la.
moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non, non. I'm looking out, I say it. Dans ma cité, pour moi j'ai tout essayé. Y'a pas moyen de gagner, non, non, non. I'm looking out, I say it.
C'était Dans ma cité de Clay and Friends sur l'autre radio. Vous êtes toujours dans l'agité du local et c'est le retour comme tous les 15 jours de la chronique d'Emma. Emma qui va nous parler, vous le savez, nous subissons à nouveau, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas nous connaissons un nouveau confinement. Je disais subir, c'est pas du tout le cas de certaines espèces animales, Emma.
Exactement Marie, puisque nous entrons dans la troisième saison du confinement, on va essayer de se remémorer la première pour se rappeler un peu des espèces qui ont profité de l'absence de l'homme pour ressortir. Parce que oui, l'absence d'activité humaine, ou du moins beaucoup plus faible, a permis à la nature de reprendre ses droits. Pour commencer, on va aux Calanques de Marseille, où des baleines avaient pu être observées. Il s'agissait de deux rorquals communs qui se promenaient profitant ainsi du calme du confinement. Les rorquals communs sont de très grands mammifères situés juste derrière la baleine bleue. Ce sont de grands migrateurs et il est possible de les apercevoir parfois dans la Méditerranée, mais l'espèce étant réduite à peu près 100 000 individus, les voir se fait de plus en plus rare. Mais ce n'est pas tout, puisque par exemple à Madrid, on pouvait apercevoir des paons visiter la capitale en se pavanant dans les rues désertées, ou alors dans les beaux quartiers de Londres avec un renard profitant alors de l'absence d'humains. En Savoie, par exemple, où les loups se sont rapprochés, tout comme les oiseaux, un peu partout. Et justement, les oiseaux, l'absence de pollution sonore leur a permis de se faire entendre et de pouvoir aussi faire leur nid sans avoir le risque de les voir se faire détruire par les différents prédateurs. Car quand l'activité humaine est à la normale, beaucoup de facteurs empêchent la nidification. Comme sur les plages où les tortues qui pondent étaient moins menacées de voir leurs œufs se faire écraser par des promeneurs puisque l'accès aux plages était interdit. Au Brésil par exemple, où grâce au confinement, 97 œufs de tortues imbriquées, une espèce menacée car chassée pour ses écailles, ont pu voir le jour sur les plages désertées. Et plus près maintenant, en Bretagne, où les dauphins se faisaient plus nombreux et ils se réapproprient les côtes puisque l'activité avec les bateaux était au ralenti. Et à Brest, c'est un requin pèlerin qui s'est baladé dans le port sous les regards surpris de quelques passants. Si le requin pèlerin est un habitué du Finistère, c'est quand même un spectacle rare de le voir aussi proche et surtout dans un port. Ce requin est tout de même le deuxième plus grand poisson du monde, juste derrière le requin baleine. Et tout ceci peut nous faire réaliser que l'activité humaine a pendant trop longtemps empêché les animaux de sortir, comme l'explique Manuel Bourron, passionné de la nature. Il explique notamment que les sangliers et les renards ne sont des espèces nocturnes seulement parce qu'ils ne sont pas tolérés en journée dû à l'activité humaine. Alors on peut dire que pendant que nous sommes confinés, ce sont les animaux qui ne le sont plus.
Alors c'est plutôt une bonne nouvelle finalement, ou c'est un peu triste en même temps, j'arrive pas à me positionner sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas Emma pour cette chronique sur le confinement et déconfinement des animaux du coup. On pourra te retrouver d'ici 2 semaines pour une autre chronique, pareil, au sujet d'un tout autre sujet, alors on vous en dévoile pas trop de toute façon. Retrouvez cette chronique dans 15 jours, merci beaucoup. Et c'est au tour maintenant de Claire, je passe la parole à Claire pour l'heure de, là bien sûr, c'est l'heure de la rubrique des initiatives et aujourd'hui on parle de confiture bio.
Et oui, Aurélie Dordogne est productrice de fruits bio et gérante d'Au Petit Verger à Aron. Depuis peu, après une reconversion professionnelle, elle veut maintenant lancer sa production de confiture bio. Elle transformait déjà ses fruits en confiture, sirop et vinaigre, mais la demande est grandissante. Elle doit agrandir ses locaux et elle va avoir besoin de nouveaux équipements pour passer de 4000 pots à 16 000 pots par an. Pour ça, elle a besoin d'une aide financière et ça se passe sur la plateforme de cagnotte en ligne Mimosa avec 2 i. En tapant les confitures gourmandes du Petit Verger, vous avez jusqu'au mercredi 7 avril pour participer.
Et on continue donc avec une offre d'emploi proposée à Ambrières-les-Vallées.
Et oui, l'entreprise de charpente Chéniard s'agrandit. Un bâtiment de 1650 m² va être construit qui permettra le stockage et le travail du bois. Des panneaux photovoltaïques vont être installés. Et avec cette expansion, l'entreprise recherche des postes. 3 monteurs en charpente sur chantier, 1 ou 2 personnes en atelier avec plutôt charpentier ou ouvrier polyvalent et un chargé d'affaires agricole commercial. Si vous êtes intéressé, contactez-les au 02 43 04 92 73.
Merci beaucoup Claire, et si vous avez d'autres initiatives à partager, n'hésitez pas à nous les transmettre sur notre répondeur au 09 70 40 59 40, et toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux, nom du compte L'Autre Radio, sur Facebook et Twitter. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les numéros de téléphone que je viens de dire, cette émission sera en podcast dès cet après-midi sur notre site l'autreradio.fr. Eh bien, c'est déjà la fin de cette édition de la JT du local du jeudi 1er avril. Merci Claire, merci Emma.
Merci tout le monde.
Merci Marie, j'ai hâte de réécouter en podcast le lancement de cette émission.
Et un lancement évidemment brillamment mené par votre serviteur qui n'a pas du tout été surprise par ce, par ce nouveau jingle. En tout cas, restez bien à l'écoute de L'Autre Radio puisqu'à 19h, il y aura Le Grand V, votre émission de variété française qui met à l'honneur la variété française, toujours avec un petit regard décalé. Et nous, on se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est la JT du local.